bienvenue dans le monde de la philosophie. Bienvenue à vous, Pascal Louvrier.
Bonjour.
Bonjour. Vous êtes journaliste, vous êtes écrivain, vous avez publié de nombreux ouvrages, des essais, des biographies en particulier. Parmi elles, je signalerai votre Brasillach, L'illusion fasciste, c'était aux éditions Perrin. Votre Paul Morand, que vous avez coécrit avec Éric Canalforgue, aux éditions Perrin également. Votre Georges Bataille, La fascination du mal, c'était aux éditions du Rocher, et parlant de Morand, parlant de Bataille, on s'approche d'une manière tout à fait sensée de l'écrivain qui va nous, et du penseur également, qui va nous réunir aujourd'hui, et sur lequel d'ailleurs vous avez, auquel vous avez consacré un ouvrage il y a plusieurs années. Je veux parler donc de Philippe Solers. Vous venez de publier donc un très subtil Philippe Solers entre les lignes aux éditions Le Passeur. Solers que vous avez connu, dont vous avez été très proche. Et vous aviez publié il y a bien des années, il y a plusieurs années, un Philippe Solers également, Mode d'emploi. C'était aux éditions du Rocher que vous avez repris et que vous avez augmenté, modifié dans cette nouvelle édition, donc toute récente. Peu après donc le décès de Philippe Solers. Alors Solers, c'était un romancier, bien sûr, c'était un écrivain. Je le disais, c'était aussi un homme de pensée. C'est un homme dont l'art romanesque lui-même a parfois suscité quelques critiques de la part de personnes peut-être elles-mêmes un peu étroites d'esprit, considérant, en raison des critiques formulées par Solers à l'endroit du roman dit naturaliste ou du roman psychologique, qu'il était un faux romancier ou un romancier aux frontières de l'essai, de la pensée, de la philosophie. Tout ceci ne me paraît pas très, très sérieux, très, très tenable, très raisonnable. Vous citez dans votre essai, Pascal Louvrier, un extrait du grand roman de Solers qui s'intitule « Femme » au pluriel. Et voilà l'extrait que vous citez. « J'ai lu tout Hegel, je le jure », s'écrit-il dans « Femme ». La phénoménologie de l'esprit, la grande logique, la plume à la main, et Aristote, et Platon, et Spinoza, et Leibniz, pour qui je garde un faible, et Marx, et Engels, et Lénine. Vous avez eu l'habileté et la subtilité de placer en épigraphe de votre Philippe Solers entre les lignes, aux éditions de Le Passeur, donc, cette phrase de Philippe Solers, « La vérité change de vérité ». Il me semble que c'est une manière assez juste de cerner l'esprit de Philippe Solers, à la fois sous un angle profond et puis sous un angle un peu superficiel, qui n'est pas le vôtre évidemment, mais qui est celui des critiques auxquelles je faisais allusion précédemment. La vérité change de vérité. Nous pouvons y voir à la fois le côté ludion, en quelque sorte, de Philippe Solers, mais on peut y voir aussi sans doute plus profondément son côté mobile, son côté presque héraclitéen. En quoi, d'après vous, Philippe Solers a été cet homme de la mobilité, cet homme des passages, cet homme des passerelles, cet homme à certains égards insaisissable, rapide, net, précis? Ce sont des termes qui reviennent très souvent sous sa plume. Est-ce qu'il y a de l'insaisissable chez Philippe Solers?
Vaste débat, là. On est déjà au cœur du sujet avant, oui, même que je me sois chauffé un petit peu. Ça va être un peu délicat de répondre à ça. La citation que vous faites, et qu'effectivement j'ai mise en exergue de mon essai, en fait, c'est à la fin d'une émission où il venait présenter Portrait du joueur, une émission... Je crois que c'était plus apostrophe, je crois que c'était Bouillon de culture avec Bernard Pivot. Il était face à Alain Robbe-Grillet et puis bon, on l'avait pas mal attaqué. Il a dit, mais bon, la vérité change de vérité. C'est, ouais, un peu, vous avez cité Héraclite, ça peut être Pascal aussi. Ce qui vaut en deçà des Pyrénées, oui, ne vaut pas, mm-hmm, au-delà. Mm-hmm. Bon, voilà, c'est-à-dire qu'on est effectivement... dans une vérité qui, par définition, est subjective. Et donc, on ne reste pas uniquement figé sur ses bases. Mm-hmm. Et effectivement, le terme de mobilité me paraît très approprié, puisque vous avez un homme qui, d'entrée de jeu, et j'emploie l'expression à dessein, qui d'entrée de jeu va s'opposer au système qui est en place, et il va s'opposer au système et il va en même temps l'utiliser. Mmh. Donc il y a,
c'est ça, l'ambiguïté,
il y a ici un élément qui d'ailleurs renvoie à Hegel. Mmh. Donc on est dans un mouvement permanent de dépassement, même à un moment donné, d'Aufhebung, comme disent les Allemands. C'est un mouvement dialectique.
C'est ça.
Et à ce moment-là, effectivement, les critiques qui aiment mettre une étiquette sur le dos des écrivains, parce que ça reste avant tout un écrivain, la philosophie joue un rôle très important dans sa conception à la fois de l'écriture et en même temps de son combat, parce que c'était un homme de combat. Et donc, la philosophie entre dans ce combat avec des penseurs que vous avez cités, Hegel, mais bien sûr, on parlera de Nietzsche ou Heidegger et d'autres. Et vous avez donc quelqu'un qui est perpétuellement en mouvement, déjà dans la vie, parce que je l'ai fréquenté, comme vous l'avez dit.
Oui, vous l'avez suivi.
Je l'ai suivi, ça. Et parfois, il m'a perdu un peu, mais j'ai su le rattraper, je pense. Et donc, on a quelqu'un, effectivement, qui est toujours en mouvement, physiquement en mouvement, qui échappe à la société parce que la société, les sociétés d'ailleurs, la société, c'est l'ennemi. Mais bien évidemment, il l'utilise et il a des points de repli parce qu'il travaille. Il n'est pas uniquement en mouvement. Après, il est statique, mais en mouvement dans sa pensée.
Oui.
Et là, vous avez des endroits qui sont tout à fait solerciens.
Oui.
Vous avez Venise, où il va aller de très nombreuses années avec cette découverte en 1963, où il raconte presque sa nuit pascalienne, place Saint-Marc, et il pose son sac, et là, quelque chose de très fort, un ébranlement, je pense, se produit. Vous avez l'île de Ré, où je suis allé le voir fréquemment, où il avait son petit bureau face aux étangs, qui sont zones protégées aujourd'hui, et là, il construisait, il élaborait son œuvre, qui est une œuvre dense, riche, complexe, qui échappe à beaucoup. Et comme aujourd'hui, on a plutôt tendance à être à plaquer des...
À simplifier
je
très largement.
Le dire, oui, à simplifier, mais surtout à mentir, en fait, sur ce qu'est véritablement l'écrivain qui pose problème, parce que l'écrivain reste une notion essentielle dans la société, et malheureusement, ça, on y reviendra peut-être, mais l'écrivain aujourd'hui ne joue plus le rôle qu'il devrait jouer. Je cherche par exemple des Solzhenitsyn, mais j'en trouve pas. Hein. Je trouve des fonctionnaires culturels, mais je trouve pas un véritable écrivain. On a affaire ici à un véritable écrivain, c'est-à-dire qui pense, qui réfléchit, qui met en scène, qui montre une voie qui est différente de celle qu'on veut absolument nous imposer, et à partir de là, sur ces lieux qui sont solerciens, Venise, Paris dans une moindre mesure.
Oui, et Paris, c'est aussi le fameux studio qui donnera son titre à un roman, c'est Port-Royal aussi. Hein. C'est aussi un lieu de pause solersienne. Et vous rappelez d'ailleurs que ce fameux studio que vous connaissez a été dans un immeuble avec deux entrées différentes.
Hein. Oui, c'est exact.
C'est aussi assez révélateur du personnage et de sa pensée même. Hein.
Oui,
il y a un échappatoire.
Il y a toujours, vous avez tout à fait raison de le signaler, il y a toujours chez lui un échappatoire.
Voilà.
Le studio d'ailleurs qui est, à mon avis, un de ses meilleurs romans de la deuxième période.
Oui.
puisque j'ai à peu près défini trois périodes, mais bon, ça après c'est plus ou moins flottant, mais c'est de la troisième période, c'est Studio, d'ailleurs qui renvoie à un personnage qui a beaucoup intéressé Solers, c'est Rimbaud.
Oui.
Et effectivement, comme vous le soulignez, Studio, c'est le studio boulevard de Port-Royal, là où il travaillait le matin très tôt. Il commençait sa journée très tôt parce que c'était un gros bosseur, un gros travailleur. Hein. Il y a une œuvre, comme on dit, qu'il laisse et il y a beaucoup de travail. Et donc, oui, il y avait une double entrée et c'était très amusant parce qu'il avait un côté un peu comme ça, farceur. Et il me disait, l'ouvrier, vous avez vu, on est entré par là, mais on va ressortir sur une autre rue. Parce que toujours agent secret ça. Du temps,
ouais.
Quoi.
Ouais.
La fuite, quoi.
Ouais.
Et c'est vrai que vous avez raison de souligner cela. C'est d'ailleurs un studio qui avait été acheté par ses parents. Et il l'a toujours gardé. Et c'était vraiment son antre de travail. Et il y avait plein de livres qui étaient entassés comme ça sur le parquet. Il y avait des photos. Il y avait une photo de lui à l'île de Ré quand il était très jeune. Il y avait sa mère. Je vous dis tout ça parce que c'est un petit peu pour fixer,
oui,
l'univers de,
bien sûr.
De Philippe Solers. Ce n'est pas un personnage éthéré, hein, du tout.
Bien sûr, ce studio que vous décrivez, c'est très important, vous avez tout à fait raison. Qu'est-ce qui le distinguait du petit bureau que vous connaissez aussi parfaitement, du petit bureau de Gallimard ?
La
banque centrale de la littérature française, disait-il.
Parce que la grande différence, c'est qu'il recevait.
Ouais.
Il recevait. Il travaillait. Je dirais, il faisait l'administratif, l'intendance,
d'accord.
Quand il était dans ce fameux petit bureau qu'il partageait avec Marcelin Plenet,
ouais.
Où il nous enfumait allègrement. et là, oui, voilà, il m'avait reçu à plusieurs reprises. D'ailleurs, vous avez cité mon Georges Bataille, j'avais été le voir et c'était un peu nos retrouvailles. On s'était perdu de vue et à la fin de cet essai, il m'avait accordé une interview, d'ailleurs très, très pertinente sur Georges Bataille, qui est un écrivain essentiel, à mon avis, du XXe siècle et de la période où nous sommes ici, parce qu'on est quand même dans un sacré marasme.
Mm-hmm.
Et donc, il ne faut pas du tout négliger la pensée bataillienne. Et donc, voilà, c'est la grande différence. Le travail de l'écrivain s'effectuait à Venise, sur les atterrés, à Ré et dans ce studio-là, avec une particularité, avec une préférence, je pense, pour l'île de Ré et, comment dirais-je, Venise, c'est la lumière.
Oui.
La lumière n'est pas la même. J'ai eu l'occasion de fréquenter très longtemps l'île de Ré. Et effectivement, il y a une énergie, il y a quelque chose qui se dégage. Et puis, même si aujourd'hui c'est une presqu'île, mais c'était une maison qu'il avait héritée de ses grands-parents. Son grand-père étant lui-même un marin, il avait d'ailleurs un bateau qui s'appelait le Nouveau. Et il y a un livre... dans cette dernière période dont je parle, la troisième période, où effectivement il évoque ses ancêtres. Et c'est important d'être un marin, parce que quand on est marin, on sait naviguer, vous voyez ce que je veux dire.
Oui, et c'est aussi une façon d'ailleurs de souligner l'importance de l'eau dans l'œuvre de Solers, de ce caractère maritime. Il y a Ré, il y a Venise, il y a aussi un arrière-plan, l'île. Cette grande île qu'est l'Angleterre, et il y a une anglophilie foncière dans la famille de Solers, chez Solers lui-même. L'eau, l'univers océanique, c'est aussi celui où les frontières sont brouillées, n'existent pas. C'est aussi le flux, la liquidité, et donc c'est aussi une certaine forme, dans son esprit j'entends, puisqu'on peut faire des interprétations très différentes, mais c'est aussi le lieu de la liberté. C'est aussi le lieu où on retrouve ce désir d'échapper, de filer, de naviguer. Comme vous le dites, chez Solers. C'est un élément, me semble-t-il, important. Ce n'est pas un écrivain, me semble-t-il, de la terre. C'est un écrivain de la mer.
Vous avez tout à fait raison. Et le port, je vous dis ça parce que Là, je suis en train de terminer un roman et qui se passe justement dans un port qui n'est jamais nommé. Mais effectivement, le port, c'est l'ouverture sur l'aventure, sur le voyage. Je pense qu'on a la possibilité encore aujourd'hui de vivre une aventure exceptionnelle grâce à la mer. Et oui, alors on revient, si on le considère comme un écrivain de la mer et non pas de la terre, ça renvoie à ce que vous disiez en introduction, c'est-à-dire ça revient à la mobilité de Solaire.
C'est ça. Mmh.
Alors l'autre élément aussi que vous avez cité et qui est pour moi fondamental, c'est l'anglophilie de Philippe Solaire. Hérité, si j'ose dire, de sa famille. On a affaire à des anglophiles. Très vite, sa famille, qui est d'origine bourgeoise, qui est de Bordeaux, très vite comprend qu'on est avec De Gaulle. C'est le salut. Et l'Angleterre, puisque bon, effectivement, quand on parle de De Gaulle, il faut parler de Londres. Et c'est l'élément qui permet d'échapper à cet enfermement historique qui va durer 4 ans, qui est le pétainisme. Mmh. Où là, on parlera peut-être tout à l'heure, je pense, on est avec le retour, l'aggravation du nihilisme. Et j'ai vu dans certaines de ces émissions où il disait, moi je suis quelqu'un du Sud, je suis comme Nietzsche, moi je vote toujours le Sud contre le Nord. Mmh. Et il y avait un écrivain qui lui dit, oui, mais enfin, vous parlez de l'Angleterre, c'est pas le Nord. Il dit, si, c'est le Sud dans ma pensée, c'est-à-dire c'est la résistance, c'est l'acte de résistance. Mm-hmm. Et ça, c'est important pour lui parce qu'à partir de là, il n'a aucune leçon à recevoir. Vous comprenez ? Donc, il met de côté toutes celles et ceux qui ont été... plus ou moins dans la collaboration. Et je pense par exemple à Duras, à Beauvoir, à Sartre, au lendemain de la guerre occupe le terrain, surtout Germano-Pratin, et Solers rentre là-dedans à la hussarde et dit non, mais moi je n'ai rien à faire avec vous. Ma famille, j'ai mes actes de bataille, de guerre, si j'ose dire. J'ai mes médailles familiales. Voilà. Et ça, c'est un élément, effectivement, qui est très important et qui m'a toujours plu chez lui, parce que vous avez ce qu'il appelait un placard, et vous avez plusieurs placards en France, et vous avez l'un de ces placards qui est justement la période de Vichy, d'ailleurs, qui n'a pas encore été totalement expurgée, et c'est pour ça qu'on y revient en permanence. Mmh. Et lui échappe à cela de par sa famille, et bien évidemment de par ensuite l'esprit qu'il met en avant. C'est pour ça que ça m'a toujours surpris quand on pouvait lui faire le procès d'être, et d'ailleurs aujourd'hui je vois que ça revient, d'être réactionnaire, en tout cas conservateur. Ça me fait rire parce que là c'est vraiment absolument mentir.
Alors Pascal Louvrier, vous citez quelqu'un qui a beaucoup compté pour Solers également dans votre essai, qui est Roland Barthes, et en particulier la préface de Roland Barthes aux romans et contes de Voltaire. Roland Barthes écrit à propos de Voltaire: il n'a d'autre système que la haine du système, et vous précisez évidemment que ceci s'applique parfaitement à Philippe Solers. C'est ce que l'on vient de dire, et c'est ce que Barthes là condense dans le rappel que vous faites. Voltaire, restons dans cette mobilité de l'esprit, dans cet héraclitéisme, en quelque sorte, de Solers. Il s'origine, me semble-t-il, chez lui, dans ce qui est sa temporalité centrale, qui est celle du XVIIIe siècle.
Oui.
Du siècle dit des Lumières, mais des Lumières, je crois, chez Solers, très largement élargies, enfin, des Lumières panoramiques, en quelque sorte. Le XVIIIe siècle est fondamental pour lui. Il est fondamental par Voltaire. Il est fondamental par Aurore de Nietzsche et par ce moment voltairien de Nietzsche. Mais il est fondamental également par Sade, par Casanova, par Joseph de Maistre, par Louis-Claude de Saint-Martin et tout ce mouvement de l'illuminisme. Que pourriez-vous nous dire sur cette conception qui n'est pas du tout scolaire du XVIIIe siècle chez Philippe Solers? Qu'est-ce qu'il en retire? Quelle est la substance qu'il en retire? Quel est son regard? Et en quoi se distingue-t-il des regards convenus sur le XVIIIe siècle? Pourquoi est-ce son grand siècle, d'une certaine manière?
Alors, c'est assez vaste comme question que vous me posez, parce que effectivement, en fait, Solers joue toujours quelque chose ou quelqu'un contre un autre.
Oui.
Alors, le XXe siècle, bon, il le prend, c'est le sien, avec une partie du XXIe siècle, qui est un siècle très particulier avec les massacres de masse. Et il rejette le 19e siècle.
Absolument.
Voilà. Alors,
absolument.
Rejet total.
Le 19e siècle à travers les âges, côté Muret, le stupide 19e siècle, côté Léon Daudet.
Oui.
C'est un rejet total de la
total.
Part de Solers.
Oui, oui, ça, de son point de vue. Ouais. Zola, le naturalisme,
voilà.
C'est pas la peine, ça ne passe pas, ça ne passe même pas à l'oreille. Donc,
tout à fait.
Il faut vraiment quitter il disait le terrain vermineux du réalisme naturaliste.
Oui.
Et en fait, à ce moment-là, il y a un retour en arrière, mais qui n'est pas. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'il n'y a pas un retour en arrière. C'est qu'en réalité, on s'appuie sur le XVIIIe siècle, qui est un siècle de très grande liberté, avec une expression très, très forte, très libre et très innovante. Très innovante. Et donc, il considère à ce moment-là que le XVIIIe siècle est beaucoup plus lumineux que le XIXe. Donc, il crée un enjambement et qui va l'amener du XVIIIe au XXe siècle, comme par exemple, il joue la contre-réforme contre la réforme même la Renaissance. Donc, si vous voulez, en fait, pour dire d'une manière un peu générale, c'est que il a une dimension chez lui historiale, pour reprendre l'expression de Heidegger, c'est-à-dire que il faut être capable de penser et d'envisager à la fois simultanément et d'une manière vivante tout ce qui est dit, pensé dans la langue que l'on parle, et ce qui est le mieux dit. Du point de vue de Solers, ça s'exprime dans le XVIIIe siècle. Voilà, avec des auteurs que vous avez cités, prédilection pour effectivement Casanova et la liberté de Casanova, qui écrit ses mémoires en français.
Voilà,
il le signale. Donc le français est une langue essentielle qui fédère une partie de la culture européenne. Donc pour lui, c'est un élément fondamental, puisque il faut véritablement penser dans la langue que nous parlons. Or, vous voyez, par exemple, aujourd'hui, on a un appauvrissement exceptionnel, formidable, au sens qui fait peur,
terrifiant,
de la langue. On arrive presque aujourd'hui à être le français une langue morte. Ça, c'est aussi une des idées qui a été développée, qui est développée par Richard Millet, qui est extrêmement importante.
Tout à fait.
Et si vous voulez, donc, pour régénérer la langue française, pour l'activer en permanence, pour qu'elle soit dans un mouvement, pour reprendre, puisque c'est l'homme de l'eau, c'est pas inintéressant ce que vous avez dit, eh bien, donc, à ce moment-là, il va aller vers le XVIIIe siècle et il va montrer un certain nombre d'auteurs ou réactiver un certain nombre d'auteurs comme Voltaire, Et c'est très intéressant parce qu'on voit aujourd'hui à notre époque, hein, Voltaire, c'est le fameux « écrasons l'infâme », voilà, et on voit une chose avec la vague « woke » qui est en train de déferler et qui risque de nous submerger parce qu'on n'a pas les défenses immunitaires suffisantes pour résister. Eh bien, on déboulonne des statues et on déboulonne la statue de Voltaire. Exact. Tiens, oh, bah, c'est curieux ça, Voltaire. Donc, ça signifie qu'en réalité, Solers montre du doigt ce qui est essentiel. Voilà, c'est un combat, c'est un combattant. Tous ses livres sont des livres de combat, hein, ce n'est pas des livres de divertissement du tout.
La guerre du goût.
La guerre du goût, voilà, j'allais le préciser.
Dans une guerre.
Exactement.
Sun Tzu également, hein, l'art de la guerre. Autant de classiques sur lesquels Solaire revient en permanence.
Oui, alors d'ailleurs là aussi on pourrait faire une incursion avec la Chine,
oui,
puisque on lui reprochait beaucoup de choses et je me suis encore engueulé il n'y a pas tellement longtemps avec quelqu'un qui me dit oui, le maoïsme, etc. Donc j'ai dit à un moment donné ça suffit parce que, écoutez, franchement, l'œuvre de Solers, qui est la liberté même, il ne va pas aller accepter. Cautionner la révolution culturelle. Donc il faut chercher au-delà, même s'il y a des erreurs qui peuvent être commises, mais qui n'a pas commis d'erreur, hein, c'est celui qui ne fait jamais rien. Donc si vous voulez, il y a des points d'appui, et parmi ces points d'appui, eh bien effectivement, le XVIIIe siècle, avec Voltaire, avec Casanova, et effectivement l'illuminisme que vous avez cité, qui apparaît de manière... assez original, un peu étrange, dans ses romans de la troisième période, avec par exemple Désir, où là, effectivement, il évoque ce courant de pensée.
C'est aussi le sens du secret, hein, chez Solers. Je reprends involontairement, d'ailleurs, enfin, involontairement, ce n'était pas préparé, mais des titres comme ça de Solers qui reviennent, hein, c'est ce sens du secret, c'est-à-dire d'une forme d'hermétisme, hein. Tout ne peut pas être dit de manière littérale et explicite à tout le monde, en quelque sorte. Il y a chez Solers une forme, c'est Léostros qui parlait de l'art ésotérique d'écrire, il y a aussi, à côté de cette limpidité, de cette fluidité, de cette netteté, il y a un discours sous-jacent dans l'œuvre de Solers, ce goût du secret, ce qui échappe à toute formulation.
Oui, c'était quelqu'un de, effectivement, vous avez raison, c'était quelqu'un de très secret, avec de nombreux tiroirs.
Voilà.
C'est l'homme du cloisonnement, ouais. En fait. Il a cloisonné. Moi, je le compare un peu à un sous-marin nucléaire avec...
On est encore dans la comparaison maritime.
Oui, hein, oui, non, mais j'ai tout à fait accepté votre remarque. Là, effectivement, je suis d'accord. Elle est lumineuse et je la reprends. Donc, on peut considérer qu'il est dans ce sous-marin nucléaire et quand il est attaqué et parfois... fortement attaqué, il y a ce cloisonnement, cette étanchéité qui permet de passer presque d'un monde à un autre avec des clés, parce qu'effectivement son œuvre est cryptée. Et vous avez tout à fait raison d'indiquer que les titres de Solers, bien évidemment, ne sont pas choisis au hasard. D'ailleurs, il faut voir les derniers, le nouveau, Graal, oui, Désir, voilà, et puis... le dernier, malheureusement, à titre posthume, La deuxième vie.
Tout à fait, qui paraîtra le 14 mars, je crois. Voilà. Donc c'était imminent, avec une postface de Julia Kristeva aux éditions Gallimard.
Oui, voilà, on retrouve la veuve arrive. Donc là, c'est très intéressant. Moi, je n'ai pas lu ce dernier roman, je n'ai pas lu sa postface, qui au départ devait être une préface, mais bon, on l'a passé en postface. Ce n'est pas inintéressant non plus de passer de préface à postface. Ouais. Bon, ben, ça, c'est un autre...
On va voir, hein,
c'est
on attend d'avoir
le... un autre débat. Et donc, effectivement, on retrouve notamment avec l'illuminisme, et vous avez cité Louis-Claude de Saint-Martin, René Guénon aussi.
Oui, ça c'est très intéressant.
Voilà.
Aussi,
et là, c'est dans la deuxième partie de mon livre, quand j'ai repris après son décès,
tout
le 5 mai 2023, puisque j'ai augmenté d'une soixantaine de pages le livre que vous avez cité de
Philippe
1996.
Solaire, mode d'emploi.
Voilà, que j'ai aussi remanié, parce qu'il y avait des éléments qui étaient intéressants, mais qui étaient obsolètes. Donc j'ai repris un peu tout ça. Et effectivement, là, c'est un élément... que j'ai essayé de travailler, j'ai interrogé même certains de ses amis, et il y a une énigme un peu solaire au seuil de sa vie, et donc là il y a des phases successives avec, je pense, la recherche d'une lumière, laquelle je ne sais pas exactement. Et puis, surtout, il dit dans un de ses... Je crois que c'est dans Désir, il dit « La lumière s'éprouve, elle ne s'enseigne pas ». Donc
ouais,
là, il y a un élément à creuser. Et puis, bien évidemment, avec aussi un élément qui peut-être, je pense, se veut définitif et qui pourrait résumer l'œuvre de Soler, c'est que... Il a souhaité que sur sa tombe, qui se trouve sur l'île de Ré, Ars Henri, pour l'instant, ça n'y figure pas encore, cette citation de Hegel, qui est la rose de la raison dans la croix du présent.
Oui.
Donc, il y a une sorte de synthèse voulue, souhaitée à la fin de sa vie.
C'est très important, et c'est un des passages les plus émouvants d'ailleurs de votre ouvrage, et la fin de votre ouvrage, la manière dont vous lisez ces dernières œuvres de Philippe Solaire, ça me paraît extrêmement précieuse, et il me semble que là vous ouvrez aussi quantité de portes. Nous nous interrompons quelques brèves secondes pour laisser passer un Bobineau, et nous nous retrouvons.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Retour dans le monde de la philosophie avec vous, Pascal Louvrier. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Philippe Solers, Entre les lignes. C'est aux éditions Le Passeur. Alors, nous avons évoqué ce 18e siècle de Solers. Je me souviens, lors d'une rencontre avec lui, il y a bien des années, c'était à Montpellier, je crois, nous avions parlé tous les deux de son grand roman, Femme, et je lui avais rappelé un article qu'il avait beaucoup aimé, un article de Pierre Boutan, qui était un article très élogieux à propos de Femme, de ce roman. Et je lui avais rappelé que Pierre Boutan avait été très sensible au discours de Solers autour de Joseph de Maistre dans Femme. Et Solers avait été très touché, était très heureux qu'on lui rappelle ceci. Et il ne l'avait d'ailleurs, on n'a pas besoin de lui rappeler, il s'en souvenait, il le savait. Nous avons évoqué ce XVIIIe siècle, donc illuministe, Louis-Claude de Saint-Martin. J'évoque maintenant Joseph de Maistre. Comment s'articule dans la... On reviendra, on sera amené à revenir sur la période, disons, marxienne ou marxiste, et structuraliste également, à certains égards, de Philippe Solaire, à certains égards seulement. Mais comme nous sommes dans ce XVIIIe siècle-là, comment s'articule cette vision-là de ce voltairianisme à certains égards et le catholicisme de Solaire? Cette mise, vous avez vous-même évoqué évidemment la contre-réforme que Solaire joue contre la réforme. Solaire évolue vers une forme de papisme. Je pense à sa rencontre avec Jean-Paul II, à son Dante, avec beaucoup de nuances, bien entendu. Il y a ces retrouvailles, en quelque sorte, avec le catholicisme, mais un catholicisme maistrien, si j'ose dire, ou un catholicisme d'illuminé également, au sens de l'illuminisme de Louis-Claude de Saint-Martin, et donc qui n'est pas un catholicisme théologiquement, systématiquement orthodoxe, mais qui est un catholicisme ouvert. Comment peut-on interpréter dans ce chemin de pensée et d'existence de Solers cette insistance pendant des années, pendant des décennies, c'est pas quelque chose qui date des dernières années de sa vie, autour du catholicisme? Quel regard peut-on porter là-dessus? Pourquoi ce papisme? Pourquoi ce catholicisme? Et quel est-il?
Jusqu'au bout, d'ailleurs, puisque il y a une messe avec le Requiem de Mozart, donc c'est une continuité. Joseph de Metz, c'est contre le, si vous voulez, c'est toujours pareil, c'est contre la dérive sanglante de la,
oui,
de la Révolution,
oui,
française.
Oui.
Voilà, parce que à un moment donné, on est avec des criminels qui sont à la tête de la France.
On est dans la terreur.
On est dans la terreur, voilà, exactement. On est avec Robespierre. Donc, si vous voulez, ce sont des fleuves de sang. Hein, comment dirais-je, la Seine est rouge de, oui, de sang. Voilà, donc, si vous voulez, là, il y a un dérapage totalitaire, mm-hmm, qui se met en place. Vous avez le génocide vendéen,
oui,
qui a lieu
bien
aussi.
Sûr.
Donc, si vous voulez, ce dérapage, là, bien évidemment, on n'est plus du tout dans les lumières.
Mmh.
Donc, il faut opposer à cela une force qui permette d'endiguer ce fleuve de sang. Alors, vous avez Joseph de Maistre, bon, voilà, qui est un penseur extrêmement puissant, qui est aussi délaissé. Donc, ça, mmh, intéresse Solers de voir pourquoi est-ce que la société laisse de côté, dans l'ombre, ce penseur. Là, on en parlera peut-être tout à l'heure, on est avec le nihilisme à l'œuvre, parce que c'est,
oui,
toujours c'est le grand ennemi, en fait,
voilà,
de Solers.
Oui, oui,
le nihilisme, mmh, au sens nietzschien du terme,
oui,
repris par Heidegger. C'est pour ça qu'il s'intéresse à Nietzsche. Bataille qui fait découvrir en 1945 avec son Nietzsche, donc,
oui,
le penseur qui est démonétisé à tort. Heidegger qui est dans le prolongement de Nietzsche à propos du nihilisme et qui lui aussi est démonétisé,
oui. Oui,
avec son engagement, mm-hmm, nazi de deux ans, 1933-1934. Ok, mais on peut peut-être dépasser cela.
D'autant que la critique formulée par Heidegger est radicale.
Elle,
hein,
est radicale.
Radicale.
Voilà, exactement.
Mmh.
C'est-à-dire que c'est bien la question du nihilisme qui est en cause, mmh, puisque il démontre à travers sa théorie tout ce que le nazisme a de plus dangereux et de plus abject. Donc voilà, ce qui est intéressant, c'est en réalité la domination mondiale de la technique.
Exactement.
Avec un T majuscule, mmh, et c'est ça qui est à l'œuvre, et c'est ça que reprend dans ses romans.
Exactement.
Et dans tous ses romans, mmh, là aussi, je n'oublie pas votre question,
oui,
initiale,
mmh,
mais
mmh,
là aussi, si vous voulez, il y a un reproche qui a été fait à Solers, on dit que c'est une girouette,
oui,
mais on peut lui reprocher beaucoup de choses. Moi, je ne suis pas le gardien du temple, mais si vous voulez, non, ça, ce n'est pas possible, parce que vous prenez ses premiers écrits, jusqu'à ses derniers écrits, il y a des lignes de force, dont l'une qui, mmh, est la lutte contre la société, les sociétés, l'œuf, comme il appelle ça,
c'est ça,
dans Portrait,
c'est ça,
du joueur.
Mmh.
Et il faut lutter en permanence pour préserver la liberté et essayer de faire triompher, ça va être très difficile de nos jours, de faire triompher le bon goût. Mmh. Alors là-dedans, vous m'avez dit papiste. Alors, deux choses, c'est que le catholicisme de Solers, mm-hmm, alors ça, il me l'a dit, puis je crois qu'il l'a écrit, c'est un catholicisme vénitien.
Oui.
Voilà. Alors,
ah,
bon,
ouais,
qu'est-ce que c'est,
ouais.
Eh bien,
mm-hmm,
c'est être, pour faire simple, c'est être en capacité d'allier la Vierge Rouge du Titien et la Vénus d'Urbino du même Titien. Voilà, alors pour ceux qui connaissent, on met les deux œuvres, mmh, côte à côte et ça donne le catholicisme vénitien, c'est-à-dire que c'est un catholicisme qui reprend les dogmes de l'Église et qui va mettre, j'oserais dire, en scène avec Venise, parce que c'est le catholicisme est mis en scène à Venise. C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'on n'a qu'une seule chose à faire quand on est à Venise, c'est ouvrir les yeux et lever,
mmh,
un peu la tête.
Oui.
Donc voilà, donc c'est ça qui est essentiel chez lui, de montrer cela, la fête à Venise. Bon,
c'est ça.
Voilà,
voilà,
un,
voilà
titre,
un titre
qui,
mmh,
est très explicite, mmh, même si le contenu n'est pas exactement ce que je suis en train, mmh, de développer. Mmh. Mais enfin bon, ça y participe même beaucoup. Et donc, vous avez ce catholicisme vénitien. C'est quoi, en fait? C'est qu'il n'empêche pas le désir. Voilà, il n'empêche pas le désir se développe, évite les frustrations, puisque nous sommes dans une période, là je reviens à notre période, nous sommes dans une période de frustration, de blocage sexuel, comme l'a d'ailleurs très bien décrit Bataille dans Le Bleu du Ciel, qui date, ne l'oublions pas, de 1935, même s'il a été publié en 1957. Voilà, et ce blocage, cette frustration débouche, augmente, enrichit le totalitarité, le totalitarisme, oui. Pardon, c'est-à-dire là où nous sommes aujourd'hui. On est là.
Bon. Exactement. Mmh.
Et le papisme, eh bien, attention, de quel pape parlons-nous ?
Oui.
Tout est là.
Bien sûr.
On parle de Jean-Paul II, oui. C'est-à-dire le pape qui, spirituellement, vient déjà origine Pologne et qui s'attaque au régime soviétique et qui participe de l'effondrement du système soviétique, totalitaire soviétique. Mmh. Voilà pourquoi Solers va rencontrer le pape Jean-Paul II. Voilà.
D'accord.
Et ensuite, il avait beaucoup d'affection également pour Benoît XVI, mais il m'a dit un jour, j'espère que je ne me trompe pas, mais non, en fait, il joue du piano, il joue très bien du piano, et il joue Mozart.
Ah oui.
Parce que s'il avait joué du Wagner, là, on était mal. Voilà. Ouais. Donc, y a une continuité. Après, on accepte ou on n'accepte pas, c'est la dialectique hegelienne. On discute, c'est le principe de la dissertation qui d'ailleurs a été, je le signale puisque je suis un ancien prof, a été supprimé par l'éducation nationale. Donc le nihilisme à l'œuvre, voilà, toujours.
Un compresseur très efficace,
très efficace,
redoutable.
Voilà, effectivement, appauvrissement de la langue, illettrisme.
Analphabétisme.
Voilà, incapacité, par exemple, de pouvoir, pour les adolescents, et je l'ai vérifié, lire plus d'une page. Neurologiquement, ils ne peuvent plus le faire. C'est une attaque neurologique sur les cerveaux français, voire européens. Donc voilà. Donc on est dans ce nihilisme total. Et il faut trouver des armes. Et donc le catholicisme vénitien, le papisme, pas n'importe quel pape.
Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Ces armes, donc, qui ont été utiles pour lutter contre le totalitarisme soviétique en l'occurrence et contre le totalitarisme nazi, on en parlait avec Heidegger bien sûr, qui fourbit des armes extraordinairement efficaces. Je pense également à Lacan, je vous écoutais, je pensais à Lacan qui a beaucoup compté pour Solers, qui disait, et c'est une phrase qui n'a pas été pensée encore, enfin elle commence à l'être mais très peu et de manière très confidentielle, Lacan disant les nazis ont été des précurseurs. À propos du totalitarisme d'une autre, je veux dire.
Oui, oui,
les nazis ont été les précurseurs. Lacan, très pointu là-dessus, il avait vu énormément de choses qui commencent à germer, à sortir et à être évidentes pour de plus en plus de gens, mais encore très peu au fond. En quoi le détour par la Chine, enfin détour, c'est une façon de parler, le détour par la Chine, il faut en parler. Cette période-là de Solers.
C'est pas de tabou.
Voilà, absolument. Et Solers n'en avait pas non plus. Donc, en quoi ce détour par la Chine a été aussi une manière de contourner le soviétisme, enfin, et le totalitarisme soviétique. Et plus généralement, en quoi la pensée chinoise a été pour Solers également un de ses axes de non seulement de réflexion, mais un de ses axes de vie.
C'est-à-dire que là, effectivement, ce qui est intéressant chez lui, c'est que son maoïsme, entre guillemets, est en fait de jouer, de jouer le maoïsme même avec tout ce qu'il a d'horrible, mais de le jouer à une période très précise, c'est-à-dire contre le stalinisme français. Oui. Parce qu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, qui est-ce qui gagne la bataille des idées ? C'est le Parti communiste. Voilà, en disant que ce sont les seuls qui ont résisté. Bon. Et la fable, apparemment, continue de perdurer, ce qui est quand même assez exceptionnel. Bon. Et on est dans une chape de plomb au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, avec un parti communiste qui est vraiment ultra-stalinien et qui n'a même pas fait sa révolution interne comme le parti communiste italien.
Boris et Jeannette.
Voilà. Ouais. Et donc, dans cette asphyxie généralisée dans laquelle se trouve Solers qui lutte avec tel quel, sa bande de potes, etc., pour justement faire bouger les lignes, parce que c'est toujours pareil, il faut faire bouger les lignes. C'est pour ça que j'appelle mon essai « Entre les lignes », pour voir ce qu'il y a, donc pour faire bouger les lignes. Donc, il joue en quelque sorte, voilà, Mao contre Staline. Bon, ça ne peut durer qu'un temps, c'est évident. Mmh. Et on peut lui reprocher à juste titre.
Bien sûr.
Mais on peut lui faire aussi un faux procès. On peut lui faire un procès de Moscou. D'ailleurs, c'est ce qui est assez logique, ici. Et en fait, la Chine, c'est une découverte pour lui, d'abord essentiellement culturelle. Voilà, c'est-à-dire que, pour prolonger ce que je disais tout à l'heure, c'est pourquoi est-ce que Solers va voir du côté de Nietzsche, Heidegger, pour en fait revenir non pas à l'humanisme français qui s'est quand même pas mal discrédité, mais pour revenir en fait au grec.
Oui.
Voilà, pour revenir au grec, vous avez parlé d'Héraclite, il y a Euripide, il y en a d'autres.
Oui, il est tragique, le mythe, bien sûr.
Le mythe, le mythe d'Oedipe,
bien sûr.
Jocaste, il imagine Jocaste ivre à un moment donné, s'adonnant au plaisir de la chair, dans un mouvement incestuel qui est d'ivresse, c'est-à-dire qui est en réalité dionysiaque.
Oui,
voilà,
oui,
donc bien sûr. On est là, donc on revient à Dionysos. Et là, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il joue Dionysos contre le Christ. Donc, vous voyez, à chaque fois, il faut replacer dans l'époque, dans le contexte, dans le rapport de force entre les gens qui sont sur le terrain. Comme aujourd'hui, il faut voir le rapport de force et il faut essayer de faire avec, justement, ces forces en présence. Compliqué, très compliqué, parce que l'ostracisme
est radical.
Est radical. Alors là, on est véritablement dans le
étape,
discrédit immédiat de l'adversaire, sans lui permettre même justement de débattre. Il n'y a plus de débat,
non.
C'est terminé,
c'est fini.
On ne débat plus. Vous êtes un sale type, vous êtes d'extrême droite, vous êtes
ceci,
donc tout le monde est d'extrême droite. Bon, ok, à ce moment-là, on va aller voir ailleurs. Et on va être à ce moment-là dans une forme de repli, mais de repli stratégique. Voilà. À un moment donné, d'ailleurs, il m'a dit, c'est comme ça, je ferme la porte. Et faites bien attention que fermer la porte, ce n'est pas pareil que l'enfermement. Voilà. Et je fais un aparté 5 secondes. Je vois en 2020 comment l'Europe, et en particulier les Français, ont accepté l'enfermement, si vous voulez, ça fait peur. Parce que, justement, on joue sur les peurs ancestrales.
Bien sûr.
Donc, si vous voulez, primitives.
Oui.
Primitives. Et donc, le totalitarisme est potentiellement là.
Absolument.
Voilà, avec l'enfermement.
Parfois même désiré.
Et désiré, bien évidemment, parce que ça permet aux lâches de respirer.
C'est ça.
Voilà où on en est. Et puis même, c'était très intéressant de voir les gens qui présentaient leur passe sanitaire pour aller travailler. C'est-à-dire qu'ils montraient ce qui est le contraire de la liberté s'annihiler pratiquement dans une tâche de travail, annihiler, et effectivement, vous avez raison, d'aliénation. Voilà, tout à fait. Alors, pour revenir à la Chine, je pense que c'est en fait la Chine qui est contemporaine d'Homère et d'Euripide qui l'intéresse. Voilà, c'est-à-dire de revenir à cette Chine-là, qui est totalement méconnu des Européens et en particulier des Français, avec le grand stratège dont il parle, Sun Tzu, à un moment donné. Donc vous avez Solers qui s'engouffre là et qui essaie de jouer après la Chine aujourd'hui contre d'autres puissances. C'est-à-dire que, je pense, si on revient à une stratégie globale aujourd'hui, au niveau européen et même mondial, la France devrait, à mon avis, s'allier, le mot est peut-être un peu fort, mais enfin créer des liens avec justement la Chine. Et on voit très bien que Poutine, qui est tout ce qu'on veut, mais qui n'est pas un imbécile, justement, se rapproche de la Chine. Bon, voilà, si vous voulez, tout ça, ce sont des stratégies géopolitiques,
ouais.
Mais qui, chez lui, bien évidemment, prennent racine dans la culture de ces grandes nations, de ces grands peuples. Donc, voilà.
Restant dans ce domaine, disons, marxiste ou marxien, vous consacrez de très belles pages à Louis Althusser et aux relations de Solers avec Louis Althusser, qui a été un philosophe, membre du Parti communiste français, interné à Sainte-Anne suite au meurtre de son épouse.
Oui, il l'a étranglé.
Il l'a étranglé.
Je pense que lui-même était tellement asphyxié par sa femme qu'il a fini par l'étrangler.
C'est ça. C'est aussi une manière de regarder le marxisme français avec un prisme très particulier, ce lien de Solers avec Althusser. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus? Est-ce que c'est quelque chose qui a compté également dans son regard sur le communisme français?
Oui, ça fait partie des grandes figures intellectuelles que Solers a fréquentées. Au même titre, vous citiez Lacan, il était très très lié avec Lacan.
Oui, oui. Ouais.
Via justement sa proximité de Bataille, puis Sylvia, la femme de Bataille qui devient l'épouse de Lacan. Bon, tout ça, c'est... Il y a quelque chose avec l'origine du monde. Bon, enfin bref.
Et Courbet. Là, nous allons... Alors, bon, c'est... quand on tire un fil,
voyez,
c'est infini.
Bon, voilà,
c'est le cas de le dire, c'est infini. Ça, c'est pas...
Voilà, éloge de l'infini, voilà. Vous êtes merveilleux, voilà. C'est parfait. Non, mais j'essaye de recadrer, mais vous voyez, on peut partir effectivement très loin.
Mais c'est ce qu'il faut, c'est bien.
Voilà, mais je reviens à votre question initiale. Oui, je pense qu'il ne faut pas confondre Marx et marxisme.
Oui.
C'est toujours pareil. Donc, il revient à la lutte des classes, il revient au 19e siècle avec Marx dans le contexte de la situation de l'époque, la lutte des classes. Et donc, si vous voulez, il est très intéressé par le mouvement originel, en fait, qui ensuite dérape et se sclérose.
Oui.
Voilà. Donc, c'est toujours pareil. C'est comme chez les Grecs, retour à la Grèce antique, retour aux Chinois que l'on connaît absolument pas. Donc, retour aux origines du marxisme, c'est-à-dire Marx lui-même, donc Althusser, psychanalyse Lacan, Freud, voilà, et vous avez parlé aussi de Barthes. Voilà, et si vous voulez, il est avec toutes ces grandes figures intellectuelles, et jeune homme, il est à la fois fasciné, comme par exemple Lacan, et puis bien évidemment, comme c'est la guerre, c'est les guerres secrètes, pour revenir à un de ses livres aussi, qui est très très fort. Et c'est aussi, d'une certaine façon, quand on a Nietzsche, quand on a Heidegger, eh bien c'est de remettre en cause, comme il l'a fait dans Une vie divine, le calendrier chrétien,
où
il le considère comme un calendrier à la fois politique et économique, et pas du tout ni religieux et encore moins spirituel. Il dit, regardez, quand on fait un chèque, je suis obligé de mettre 2024, sinon ça ne passe pas à la banque. Donc ça devient, le christianisme devient donc un élément des banquiers, de la finance internationale.
De la technique.
Et de la technique. Et on revient à Heidegger. Et voilà.
Alors, il nous reste très très peu de temps, Pascal Louvrier. L'émission, évidemment, passe très très vite. Surtout avec l'exploration, fut-elle assez rapide, de l'œuvre de Solers. On a évoqué sa grande période de sa pensée. Je voudrais revenir à ce qui fait aussi, bien sûr, le prix de votre ouvrage, c'est votre proximité avec Solers. Bon. En deux minutes, est-ce que vous pourriez nous dire ce que la fréquentation régulière, répétée, de l'homme Solers vous a apporté à vous? Quel est le... je sais pas dire la leçon, mais quel est l'enseignement que la fréquentation de l'homme qu'il était. On a parlé de l'œuvre hein, rapidement, on en a parlé.
Oui.
Qu'est-ce que, à vous, Pascal Louvrier, qu'est-ce qu'il vous a apporté?
Votre question me fait plaisir parce que effectivement, c'est, je l'espère, puisque là ici c'est un livre définitif. Je pense, du moins, je souhaite vivement que on voit l'homme qu'il était. Avec ses failles, avec sa fragilité, parce que avec sa grande timidité, qu'on voit effectivement l'homme qu'il était, avec son fils, par exemple David, qui avait qui a des problèmes neurologiques très graves, avec cette entre guillemets double vie qu'il a menée, femme Julia Kristeva, et puis entre guillemets maîtresse qui était Dominique Rollin, la grande muse. Oui. Si vous voulez, moi, j'ai eu pour faire très, très vite, j'ai eu un choc vraiment émotionnel quand je l'ai vu présenté à apostrophe femme.
Ouais.
J'ai dit, ça, c'est vraiment l'écrivain contemporain que j'aimerais être. Et si vous voulez, la grande leçon, moi, qu'il m'a donnée,
oui.
C'est une leçon de liberté. Mais vraiment d'intense liberté, mais une véritable jouissance. Voilà. Une jouissance avec son cerveau, comme
c'est
il dit, de Cézanne.
Voilà.
Et c'est ça que je lui dois le plus.
Pascal Louvrier, je vous remercie vivement pour cette émission et pour cet ouvrage, donc, dont je rappelle le titre, Philippe Solers, Entre les lignes, aux éditions Le Passeur. Merci beaucoup.
Merci à vous de m'avoir invité.